et soyez les bienvenus sur France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, l'effarante augmentation des actes antisémites en France, en hausse de presque 70% depuis le début de l'année, s'émeut Édouard Philippe. Chaque agression résonne comme un nouveau bris de cristal, écrit le Premier ministre dans une tribune. À la guerre comme à la guerre, Emmanuel Macron sous un feu nourri de critiques chaque jour de la semaine, si bien que ses proches se demandent si son itinérance sur les traces de la guerre de 14 était une si bonne idée que ça. Et comme les automobilistes, les patrons de départements font leur compte, ils dénoncent l'explosion du nombre de mineurs étrangers à accueillir sans les moyens qui vont avec. À la une également un forum de la paix dimanche à Paris sans Donald Trump. On en parle avec votre invité Nicolas.
Oui, il préside ce forum de Paris sur la paix. Justin Weiss, historien spécialiste des États-Unis de la relation franco-américaine, est l'invité du grand entretien de la matinale. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Un forum de la paix alors que le Yémen subit d'intenses bombardements depuis plusieurs jours. Dans ce journal également, le fichage ethnique qui embarrasse le PSG. Et bon anniversaire, l'album blanc des Beatles, il a 50 ans et pas une ride.
France Inter.
Dimanche, des dirigeants du monde entier seront réunis à Paris pour le centenaire de l'armistice, le 11 novembre 1918. Mais une autre date résonne aujourd'hui, le 9 novembre 1938, la nuit de cristal en Allemagne, un déchaînement de violence contre les Juifs, prélude à leur extermination. C'est cette date qu'Édouard Philippe nous rappelle aujourd'hui pour donner un chiffre, celui des actes antisémites qui ont explosé en France. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Ils ont augmenté de 69% depuis le début de l'année.
Et cette poussée très marquante des actes antisémites dans notre pays intervient après deux années successives de baisse, avec donc de plus en plus d'agressions physiques ou verbales, des tags antisémites également, une hausse, vous le disiez, de 70% sur les 9 premiers mois de l'année seulement. Ces chiffres viennent confirmer ce que la communauté juive ressentait déjà depuis plusieurs mois sur le terrain, explique Joël Mergui, c'est le président du consistoire israélite de France.
Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, notamment la semaine dernière après la tuerie de Pittsburgh, sur cette remontée d'actes antisémites de toutes sortes, sur des endroits dans notre pays où il est difficile de vivre en tant que juif. Et donc oui, ça correspond à une réalité du terrain qui est constatée déjà depuis quelques mois. Et je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises par le gouvernement soient encore activées, que l'ensemble de la société se saisisse de ce problème.
Et ce matin, le Premier ministre explique que nous n'en avons pas encore fini avec l'antisémitisme dans notre pays, qu'il faut en prendre conscience. Le gouvernement prépare d'ailleurs pour 2019 une modification de la loi afin de renforcer la lutte, notamment contre la cyberhaine sur Internet.
Yann Gallic, merci. La grande histoire et la petite, que retiendra-t-on de la semaine qui s'achève? Quelle fut celle des célébrations, on l'a dit, du centenaire de la Grande Guerre? Quelle fut un chemin de croix aussi pour le président de 2018, lui qui voulait se frotter aux Français, sortir de l'Élysée une semaine entière, le voilà servi.
Faites votre calcul. Le cadeau d'un côté, non. Nous le reprend doublement de l'autre.
Mais c'est ça le problème. Mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Forcément, regardez le carburant, c'est une.
Alors, ça trop. Je vais finir au carburant, mais le carburant, c'est pas bibi.
Bonjour monsieur, vous allez bien?
Non, je vous serai jamais là.
Et ben moi, je
jamais.
Vous allez bien, madame?
Hein, les carburants, les petites retraites et tout. Mais vous êtes un escroc, monsieur.
Mais
vous êtes un escroc.
Mais le carburant, mais vous pouvez.
Mais les autres présidents n'ont même pas osé faire la moitié de ce que vous faites.
Et ben, ça vous
a. Et vous ne ferez pas 5 ans dans votre mandat.
Vous n'êtes pas sorti de la panade.
Vous n'êtes pas le bienvenu, monsieur Macron, ici.
C'est pas le sentiment que j'ai eu en me promenant dans l'entreprise.
Mais si, monsieur Macron,
en voyant les uns les autres.
Vous prenez dans la poche des ouvriers aujourd'hui, monsieur Macron.
Monsieur.
Florilège de la semaine et rebelote aujourd'hui vendredi dans la Somme. Des habitants d'Albert, où Emmanuel Macron déjeunera avec Theresa May, ont prévu un comité d'accueil. Cette longue itinérance sur les hauts lieux de la Première Guerre était-elle une si bonne idée? On en doute, Cyril Graziani, y compris à l'Élysée.
Emmanuel Macron avait pris l'habitude d'être interpellé dans la rue, il appréciait même. Hier chez Renault, il a été interrompu alors qu'il entamait son discours devant les salariés de Maubeuge. Depuis le début de cette itinérance, le chef de l'État, qui prétend écouter la colère, la prend de plein fouet. Mais hors de question pour lui de snober ceux qui parfois l'attendent des heures dans la rue, fût-il agressif. Il faut qu'il soit à hauteur d'homme, ce n'est pas grave qu'il se fasse engueuler, réagit une proche. Si on arrête les bains de foule, on dira qu'il fuit les Français, renchérit une conseillère de l'Élysée. Mais doit-il continuer à montrer cette image d'un président pris à partie en permanence face à des Français irrités ? Un intime l'a alerté, tout ça c'est anxiogène et désacralisant. Une élue proche du président, elle s'inquiète, c'est explosif partout, il semble ne pas en avoir conscience avec son ton parfois agressif alors qu'il devrait apaiser. Pétain a-t-elle pu constater sur le terrain, ça a été encore vécu comme tel. Mais Emmanuel Macron n'est pas décidé à changer de braquet. Interrogé hier sur la difficulté de cette itinérance, il a répondu « c'est un vrai bonheur ».
Et cette colère qui s'exprime tout au long du parcours d'Emmanuel Macron, c'est le prix de l'essence et du gasoil qu'il attise hier à Bercy. Après une réunion avec les pétroliers et les distributeurs, Bruno Le Maire a assuré qu'ils allaient baisser les prix, ce qu'ils font déjà quand le pétrole lui aussi baisse. D'ailleurs, leur rôle est secondaire, selon François Carlier, délégué général de l'Association de défense des consommateurs CLCV. Le nœud du problème, ce sont les taxes auxquelles le gouvernement n'a pas l'intention de toucher.
À Matignon, ils nous ont dit, pour supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français, on a besoin d'augmenter de beaucoup les taxes sur le carburant. Ça sera la seule taxe qu'on va augmenter, mais on a besoin de le faire. Sinon, on peut pas faire les autres réformes fiscales. Donc, en gros, là, ils ont été très, très francs, beaucoup plus francs que dans la communication au grand public. Et j'ai envie de dire, c'est quand même un choix qui est compliqué parce que il va peut-être avantager certains Français, mais il y a d'autres Français, notamment au milieu rural, qui perdent beaucoup.
François Carlier de l'association CLCV.
Et à 8h07, dans la famille des mécontents du moment.
Je demande les présidents de départements réunis en congrès à Rennes. Comme tout le monde, ils comptent leurs sous, ce que l'État leur donne pour financer le RSA et l'accueil des mineurs étrangers, notamment. 140 millions d'euros pour ces jeunes migrants. Ils sont de plus en plus nombreux. Les départements ont du mal à suivre, comme l'explique Olivier Richefoux, président du conseil départemental de Mayenne.
Nous allons passer de 25 000 à 40 000 mineurs étrangers isolés qui en moyenne coûtent 50 000 euros au département par mineur non accompagné. Et le gouvernement nous propose de passer une prise en charge, si je la ramène en pourcentage du coût réel, de 13 à 17%. Ça veut dire que 83% reste encore à la charge des départements. Voilà, c'est pas suffisant. Vraiment, nous n'y arrivons plus. Pas seulement sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect mise en difficulté de nos propres équipes. Et ça ne m'étonne pas que certains collègues aient aussi du mal à trouver du personnel pour prendre en charge des éducateurs, pour prendre en charge ces jeunes. D'autant plus que nous savons que 80% de ces jeunes sont en réalité des majeurs qui ne doivent pas être à la charge des départements. Nous voyons même aujourd'hui des mineurs de la région parisienne qui arrivent sur nos départements. Donc il faut que l'État joue son rôle de garant de nos frontières et de garant des flux migratoires.
Le patron du département de la Mayenne au micro de Maxence Lambrecq. À Gap, de la prison ferme requise contre deux personnes accusées d'avoir aidé des étrangers à entrer en France. Ils leur ont fait traverser la frontière italienne en avril dernier. C'était au lendemain d'une action de l'extrême droite au même endroit. Français, maghrébins, antillais, africains, ça n'est pas une publicité pour Benetton, mais le fichage ethnique pratiqué par les recruteurs du PSG, au moins jusqu'au printemps dernier, révélation de Mediapart et d'Envoyé Spécial, la ministre des Sports est consternée, le club est très mal à l'aise, le PSG, Fabrice Rigobert, met tout sur le dos d'un ancien recruteur.
Marc Westerlop avait la responsabilité du recrutement en France, en dehors de l'Île-de-France, à la tête d'une quinzaine de scouts de 2013 jusqu'au début de l'année. Il avait mis en place des fiches comportant les qualités footballistiques, techniques, vitesse, pied gauche, pied droit et cette fameuse case sur l'origine, ce qui est bien sûr formellement interdit par la loi. Jean-Claude Blanc, directeur général du Paris Saint-Germain, dit ne pas avoir été au courant.
C'est vraiment un terrain sur lequel nous ne nous attendions pas à être pointés du doigt, mais nous ne sortons pas du fait que cela s'est passé dans le club. Et si les mesures qui étaient déjà en vigueur n'étaient pas suffisantes en matière d'alerte et de signalement de pratiques absolument insupportables, eh bien nous allons renforcer les mécanismes d'alerte pour que cela ne puisse jamais se reproduire.
La direction du club ne pouvait pourtant ignorer la situation pour Michael Hagenberg, journaliste de Mediapart en charge de cette enquête.
Dès 2014, heures, en fait, la direction générale du Paris Saint-Germain est informée d'une part de propos de Mark Westerlop qu'on peut qualifier de discriminatoire puisqu'il refuse de recruter un jeune joueur de 13 ans au seul motif qu'il est noir. Non seulement il est saisi de cette affaire-là, Jean-Claude Blanc, mais il est aussi alerté sur le fait que des formulaires avec ses origines circulent dans le club. Et aujourd'hui, il prétend que c'est nous qui lui apprenons que des tels fichiers ont existé.
Mark Westerlop, qui a contribué à l'arrivée de Kylian Mbappé à Paris, avait été convoqué pour un entretien préalable en 2014 sans écoper de sanctions. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé à la Fédération et à la Ligue de se saisir du dossier. Un dépôt de plainte va être étudié.
Fabrice Rigobert du service des sports de France Inter. À l'étranger, Donald Trump en croisade contre les migrants. Ils ne pourront plus désormais demander l'asile aux États-Unis s'ils ne sont pas entrés par un point de passage officiel de la frontière mexicaine. 700 000 cas sont en attente dans les tribunaux et des caravanes de migrants d'Amérique centrale font route vers les États-Unis.
Il est 8h10. Que sont devenus, Florence, les appels à ne plus bombarder le Yémen?
Lancé la semaine dernière par Washington et Paris notamment, en direction de l'Arabie Saoudite, à la tête de la coalition en guerre contre les milices houthis soutenues par l'Iran. Depuis quelques jours, leurs frappes se sont intensifiées sur Hodeïda, grand port de l'ouest du pays. Des bombardements infernaux au Marwaman, sur cette ville absolument stratégique pour le Yémen.
C'est un véritable déluge de feu qui s'abat depuis plusieurs jours sur la ville d'Hodeïda. Sadek Al-Sar de l'ONG Salam for Yemen est en contact permanent avec des habitants pris au piège au milieu des combats.
Les gens que j'ai au téléphone à Hodeïda, ils disent que c'est apocalypse now aujourd'hui. Ils vivent l'enfer et ces gens-là, ils ne peuvent pas sortir parce que la ville est encerclée par la coalition, bombardée jour et nuit par des bateaux de guerre et mis aussi les F-16.
Si les forces de la coalition sont déterminés à prendre le port d'Hodeïda, c'est pour asphyxier les rebelles houthis et les pousser à négocier. Car cette ville, située sur la mer Rouge, est le poumon du Yémen. Lucille Grosjean de l'ONG Action contre la faim.
Le Yémen est un pays qui est complètement dépendant des exportations. 90% des biens de consommation, du pétrole, etc., tout ça vient de l'extérieur et passe à 80% par le port d'Hodeïda. Si ce port ferme, ça veut dire qu'il n'y a plus d'approvisionnement en pétrole, en nourriture, en biens de consommation de base, en médicaments. Ce serait une catastrophe absolument majeure.
Une tragédie qui a poussé 35 organisations humanitaires locales et internationales à exiger de leur gouvernement qu'ils œuvrent ensemble pour mettre fin à cette guerre au Yémen où 14 millions de personnes sont menacées par la famine.
Au Marwaman, d'une guerre à l'autre, 1916, la bataille de la Somme, Emmanuel Macron au mémorial de Thiepval, aujourd'hui avec Theresa May, la pire offensive contre l'armée britannique. Jean-Yves Le Naour, historien, comme tous les matins sur France Inter, raconte comment les Allemands ont été les plus malins dans la Somme.
L'enjeu de la bataille de la Somme, c'est tout simplement de gagner la guerre. Avec une nouvelle méthode, c'est une bataille de matériel. On va ramener énormément de canons, de munitions et on va écraser les lignes allemandes sous un feu terrible. Et on est persuadé qu'il n'y a plus d'Allemands vivants. Ce qui fait que le 1er juillet 1916, quand les Britanniques attaquent, ils marchent l'arme à la bretelle. Ils sont tellement persuadés qu'il n'y a plus d'Allemands en face. Et les Allemands, eux, s'étaient préparés. Ils avaient vu les préparatifs anglais et français. Donc ils ont creusé des abris très profonds, bétonnés. Et donc, quand le bombardement, l'enfer a cessé, ils sont sortis avec les mitrailleuses et ils ont tiré. Et ce 1er juillet, 60 000 soldats britanniques et de l'Empire britannique s'écroulent. C'est la pire journée, the bloodiest day de toute l'histoire de la Grande-Bretagne.
Jean-Yves Le Naour avec Thibault Lefebvre, le feu terrible des obus sur les champs de bataille de la guerre, des milliers de tonnes d'obus dont certains jonchent encore les sols des anciennes lignes de front, comme dans la Meuse, où les démineurs de la sécurité civile sont sollicités presque tous les jours. Béatrice Duguay les a suivis.
Forêt de Verdun, à quelques kilomètres de la tranchée des baïonnettes. Au milieu de ce qui fut le champ de bataille.
On est en plein dedans.
Franck des mineurs, fais les comptes.
1, 2, 3, 4 et un montant.
5.
5 cours.
Addition des obus, qui ne fait que commencer. Les démineurs sont renseignés par Daniel Gallois, retraité de l'ONF, qui connaît la forêt et ses visiteurs comme sa poche.
Il y a les agents de l'Office national des forêts, les bûcherons, les débardeurs. Bien souvent, ils découvrent des obus. Ça m'a été signalé par les chasseurs.
Il y en a pour plein en dessous, là.
On en retrouve partout. Enfin, on ne les cherche pas, parce que sinon on n'arrêterait pas. Dans les champs, c'est pareil. Les agriculteurs, ils labourent, donc ils retournent les champs. Et constamment, ça remonte. C'est comme les cailloux. Sur les 10 années dernières, on a une moyenne de 1000 demandes d'intervention à l'année. On fait 40 tonnes à l'année, 50 tonnes.
Ça, il est cassé, mais à l'intérieur, il est plein d'explosifs.
Surtout ne pas manipuler, c'est la consigne à ceux qui trouvent des engins, parce qu'ils restent dangereux, prévient Philippe Ferry, des mineurs de Metz.
Les gens ils disent, bon, c'est rouillé, c'est foutu, non. Il y a déjà eu des écoles d'évacuer parce que les gamins ont ramené des munitions.
C'est-à-dire, la rouille, elle est extérieure là-dessus. À l'intérieur, c'est neuf comme au premier jour.
Et si la guerre s'est achevée il y a 100 ans, le champ de bataille de la Meuse reste aujourd'hui un océan d'obus.
Il y a eu 60 millions d'obus tirés pendant la bataille de Verdun. Il compte qu'il y a 10% qui n'ont pas explosé. Alors vous faites le compte, on en a encore sous le pied.
Reportage signé Béatrice Duguay, des podcasts, des petites et des grandes histoires de la guerre de 14, pages complètes sur franceinter.fr. Enfin, il est tout blanc, il a 50 ans et on continue à l'écouter presque comme si c'était la première fois. L'album blanc des Beatles est sorti en novembre 68, le voilà de retour aujourd'hui dans une version enrichie. Mathieu Culeron, le chef-d'œuvre n'a pas pris une ride. Rocky Raccoon.
La plupart des chansons de l'album blanc ont été écrites alors que les Fab Four étaient en retraite en Inde. C'est aussi le dernier disque où les Beatles sont capables de s'amuser en studio et cela s'entend, y compris lorsque John Lennon reprend des chansons émouvantes comme avec cette version de Julia, un hommage à sa mère. Présente dans ce coffret les fameuses Escher Demo, 27 titres acoustiques enregistrés chez George Harrison pour la première fois, disponibles en bonne qualité. On retrouve aussi deux titres qui ne figureront jamais sur aucun album des Beatles, mais sur les albums solo de John Lennon et de Paul McCartney. Si l'amour, la paix et la méditation planent sur cet album blanc des Beatles, ce disque évoque aussi les émeutes aux États-Unis et en France et les prémices de la guerre froide. Bref, un petit bout d'histoire de la musique. Blackbird en fait partie, un titre très influencé par Jean-Sébastien Bach, seul morceau classique joué par Paul et John à la guitare. Le coffret anniversaire de l'album blanc, un objet définitif sur l'un des derniers chefs-d'œuvre des Beatles.
Ah, c'est tellement bon, on n'a pas envie que ça s'arrête.
Ah, on n'a aucune envie, effectivement.
Et pourtant,
merci Florence Paracuelos.